Il est 20h en temps universel, 22h ici à Paris, vous écoutez RFI.
Guillaume Nodin.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre journal en français facile avec ce soir Sylvie Berruet. Bonsoir Sylvie.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Et dans l'actualité de ce lundi, il y a la crise politique à Hong Kong. Les manifestants pro-démocratie ont envahi l'aéroport qui a été fermé alors que le gouvernement chinois hausse le ton.
La chute de la bourse argentine, elle s'est effondrée de 30% à l'ouverture après la défaite du président Macri dans une élection primaire.
Un nouveau président au Guatemala, Alejandro Giammattei, a été élu à sa 4e tentative. De nombreux défis l'attendent.
Et puis la situation des familles de travailleurs philippins en Israël. Une femme venue travailler dans le pays risque l'expulsion pour avoir fait un enfant.
Le journal en français facile.
En français facile.
Et on va commencer, Guillaume, avec la crise à Hong Kong.
La tension continue de monter. Tous les vols ont été annulés aujourd'hui à l'aéroport du territoire, dont le hall des arrivées a été le théâtre d'une manifestation de plusieurs milliers de militants pro-démocratie. Ils étaient venus accueillir les voyageurs en leur demandant leur soutien et pour protester contre la stratégie de maintien de l'ordre au lendemain d'un 10e week-end de protestation qui s'est terminé dimanche soir dans la violence. Les vols du 8e aéroports du monde ont donc été suspendus. Les précisions de Yelena Tomic.
Le hall du principal terminal à l'aéroport de Hong Kong est encore ce soir noir de monde. Des milliers de manifestants continuent de camper en signe de protestation contre les brutalités policières de ces derniers jours. À l'exception des vols au départ dont l'enregistrement est terminé et des vols à l'arrivée qui sont déjà en route pour Hong Kong, tous les autres vols ont été annulés pour la journée. Certains observateurs craignent un assaut de la police, un assaut qui serait imminent pour déloger les contestataires. Après un dimanche soir très violent sur l'île, 45 blessés dont 2 gravement et de nombreuses arrestations, la police a sorti ce lundi les canons à eau, encore jamais utilisés depuis plus de 2 mois de contestation. À Pékin, la colère gronde, on parle désormais de, je cite, manifestants radicaux et de premiers signes de terrorisme. Depuis quelques jours, les médias chinois diffusent des images de blindés de la police en route vers la métropole de Shenzhen, aux portes de Hong Kong. Il s'agirait d'exercices d'envergure visant à impressionner les militants hongkongais, mais aussi, selon les experts, à empêcher une contagion à la Chine continentale.
Les tensions économiques et commerciales entre la Corée et le Japon.
Le gouvernement sud-coréen a retiré ce matin le Japon de sa liste blanche de partenaires privilégiés. C'est une mesure qui, en pratique, compliquera les exportations coréennes vers le voisin nippon. C'est le dernier épisode en date d'une guerre commerciale qui fait rage entre les deux pays après que la Cour suprême coréenne, sud-coréenne, a condamné des entreprises japonaises pour travail forcé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tokyo a restreint les exportations vers la Corée en matières premières, cruciales pour l'industrie sud-coréenne. Une décision qui suscite en Corée du Sud un violent sentiment de colère contre l'ancien occupant colonial.
C'est un lundi noir en Argentine.
On parle de journée noire quand la bourse s'effondre et elle a chuté de 30% à l'ouverture aujourd'hui au lendemain de la lourde défaite du chef de l'État Mauricio Macri à des élections primaires. Un scrutin vu comme un galop d'essai, un test avant la présidentielle au mois d'octobre. Pour Nestor Sibona, éditorialiste économique du journal La Nación à Buenos Aires, les mauvais résultats économiques de la présidence Macri pèsent beaucoup dans le scrutin.
La réaction des marchés dans les premières heures de ce lundi, après la surprise provoquée pas tant par les résultats eux-mêmes que par l'énorme écart de voix en faveur de l'opposition, eh bien cela se reflète dans la chute des valeurs en Argentine, à New York, avec une remontée du dollar et la chute de la bourse. Et cela met Mauricio Macri comme Alberto Fernandez face à la nécessité d'envoyer des signaux qui rassurent les marchés et faire en sorte que l'économie ne leur échappe pas. Donc, c'est la grande interrogation qui se réglera ou pas dans les prochains jours. On va voir comment se comportent les marchés.
Nestor Sibona, éditorialiste économique au journal La Nación à Buenos Aires, répondait aux questions de Orlando Torricelli de la rédaction espagnole de RFI.
Au Guatemala, la présidence a un nouveau visage.
C'est celui d'Alejandro Giammattei, ce médecin de 63 ans qui briguait la plus haute fonction de l'État pour la quatrième fois, a été élu ce dimanche avec 58% des voix, candidat du parti de centre-droit Vamos, allons-y en français. Il prendra ses fonctions le 14 janvier de l'année prochaine et de nombreux défis l'attendent. Margot Turgi.
Le premier défi, c'est la lutte contre la corruption. Alejandro Giammattei entend le relever sans la CICIG, la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala. Cette mission de l'ONU a été expulsée en janvier par le président sortant, Jimmy Morales, pour une enquête sur le financement de sa campagne électorale. Aujourd'hui, Alejandro Giammattei, qui a connu la prison en 2010, veut la remplacer par un organisme national. L'autre défi majeur, c'est la lutte contre la violence qui gangrène le pays. Pour lui, la solution est simple, il faut rétablir la peine de mort. Quant à la lutte contre la pauvreté, Alejandro Giammattei promet de créer 1 million d'emplois en 4 ans, sans donner de détails sur la façon d'y parvenir. Corruption, violence et pauvreté poussent les Guatémaltèques à émigrer vers les États-Unis. C'est là que se joue le défi majeur d'Alejandro Giammattei. Un accord vient d'être soutiré au président sortant par Donald Trump qui classe le Guatemala comme un pays tiers sûr. Les migrants doivent désormais y demander l'asile en premier. Mais le pays a déjà du mal à nourrir ses propres habitants. Alejandro Giammattei avait qualifié cet accord de mauvaise nouvelle. Il n'a pour l'instant pas indiqué s'il comptait s'y plier.
C'est une semaine décisive pour l'Italie en pleine crise politique.
Les chefs des groupes politiques du Sénat étaient réunis aujourd'hui pour se prononcer sur la date du vote de la motion de censure du gouvernement déposée par la Ligue d'extrême droite. La décision a été repoussée à demain. Matteo Salvini a fait éclater la coalition entre sa Ligue donc et le mouvement 5 étoiles, mouvement populiste. Il souhaite de nouvelles élections au plus vite. Les tractations vont bon train à Rome. L'enjeu est de savoir si les Italiens retourneront voter dès l'automne, comme le souhaite la Ligue, ou si une majorité de circonstances pourrait soutenir un gouvernement technique et repousser le scrutin de plusieurs mois.
Et on va parler maintenant de la situation des travailleurs étrangers en Israël.
Une travailleuse philippine et son fils de 13 ans, né en Israël, étaient sur le point d'être expulsés hier soir, mais selon une association, ils restent finalement à l'aéroport dans une zone de détention. La jeune femme Rosemary Perez et son fils Rohan symbolisent le cas de centaines de femmes, venues légalement en Israël pour travailler, mais à qui on a interdit d'avoir des enfants sous peine d'être expulsés. Beth Franco, porte-parole de l'association United Children of Israel, elle est jointe par Muriel Paradon.
Rohan est un enfant né d'une mère qui est venue en Israël pour travailler et s'occuper de personnes âgées 24 heures sur 24, 6 jours par semaine. Un travail que personne ne veut faire ici. Et Rohan, son fils, est né ici, il a étudié ici, il a grandi ici, il a la mentalité d'ici, il est complètement israélien.
Quand ces femmes viennent, elles n'ont pas le droit d'avoir une famille.
Exactement, elles signent un contrat selon lequel elles n'ont pas le droit d'avoir un enfant en Israël. Si c'est le cas, elles doivent l'envoyer dans leur pays, sinon elles perdent leur visa. Elles rentrent donc dans l'illégalité automatiquement. Mais que pouvez-vous attendre de jeunes femmes qui arrivent ici pour travailler? Elles sont jeunes, elles sortent, elles tombent amoureuses. Avant de faire venir des gens en Israël, il fallait penser à l'avenir. Maintenant, les autorités essaient d'expulser ces femmes et leurs enfants, et en même temps, elles font venir de nouveaux travailleurs tous les jours. Quelle est la logique ?
Des propos recueillis par Muriel Paradon. L'affaire Epstein et ses conséquences maintenant.
Après la mort en prison de Jeffrey Epstein, financier américain poursuivi pour des agressions sexuelles sur mineurs, deux ministres français demandent l'ouverture d'une enquête en France pour éclaircir les causes des allers-retours en France de celui qui possédait un immeuble dans un quartier chic de la capitale française. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, leur rappelle qu'il n'appartient pas au gouvernement de décider des poursuites. Jeffrey Epstein a été retrouvé mort en prison. Il s'est apparemment suicidé, mais ses nombreuses connaissances dans les milieux politiques américains ont donné lieu à de nombreuses théories du complot. La mort d'une vedette de la musique ivoirienne, DJ Arafat, était notamment très apprécié des amateurs de coupé-décalé. Il est décédé ce lundi des suites d'un accident de la circulation. Il a apparemment percuté une voiture alors qu'il circulait à moto la nuit dernière à Abidjan. DJ Arafat, de son vrai nom Ouon Ange Didier, était âgé de 33 ans.
C'est la fin de ce journal en français facile. À demain, Guillaume Nodin.
Au revoir, à demain.